Mais dans la présence de Dieu, le temps n'existe pas. N'est-ce pas? Dans la présence de Dieu, le temps n'existe pas. Nous allons parler de la prière. Et il est coutume de faire une minute de silence. Donc, ce que je vous propose, mes amis, dans cette minute de silence, de la diviser en deux. 2 fois 30 secondes. Et comme nous allons parler de prière, j'aimerais que votre voisin prie pour vous pendant 30 secondes. Et après, vous allez prier pour votre voisin pendant 30 secondes. Il n'est pas nécessaire de prier fort, hein. Vous priez pour votre voisin. Dieu va entendre ce que vous allez lui dire. Et après, le message va commencer. On fait comme ça, mes amis. On va prier 30 secondes pour son voisin. On va lui dire ce qu'on a sous son cœur. Et le voisin va prier pour vous pendant 30 secondes. Amen. On y va. Non, ceux qui n'ont pas de voisin, cherchent un voisin. Ceux qui cherchent un voisin. Bon, Dylan, tu pries pour. Thomas, tu vas trouver. Il faut avoir un voisin. On prie pour son voisin pendant 30 secondes. Ben oui, il faut qu'il entende. Ah ben oui, il faut qu'il entende. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire de prier fort, mais il faut qu'il entende le voisin. Il faut que le voisin entende ce que vous lui dites. Pendant 30 secondes, mes amis. Après ça tourne. Amen. Tout le monde a prié pour son voisin? Tout le monde a entendu la prière du voisin? Amen. Très bien. Mes amis, on va lire ensemble dans l'épître de Paul aux Éphésiens. L'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er. Et nous allons lire une prière de l'apôtre Paul. Éphésiens, chapitre 1er, le verset 15. Au verset 19. Éphésiens chapitre 1er, verset 15 à 19. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. C'est une des plus belles prières de la Bible. Je veux croire que votre prière aussi est une des plus belles. La prière de Paul, elle est belle à cause de son contenu, mais aussi à cause des circonstances dans lesquelles Paul se trouve. Paul, en disant « c'est pourquoi », rappelle qu'il vient juste d'énumérer une série de grandes bénédictions spirituelles que le Christ nous a octroyées par son sacrifice. La prière de Paul, elle est belle parce que Paul prie dans des conditions difficiles. Paul est incarcéré à Rome à cause de sa foi en Jésus-Christ. Mais la prison des hommes n'arrête pas l'œuvre de Dieu. C'est au fond d'un cachot. Au fond d'un cachot que l'apôtre Paul reçoit la révélation du mystère du Christ, l'Église. La prison des hommes ne bloque pas l'avancement du royaume de Dieu. L'œuvre du diable ne peut pas stopper l'œuvre de Dieu, parce que l'œuvre de Dieu vient du cœur de Dieu. L'œuvre de Dieu vient du trône de la grâce. L'œuvre de Dieu vient du trône où Dieu règne. Amen. On a entendu ? Sion, ton Dieu règne. Et parce que Dieu règne, son œuvre avance. Et l'ennemi ne peut pas stopper l'œuvre de Dieu. Même dans sa prison, dans son cachot, Paul a pu écrire cette lettre. Paul a pu recevoir des révélations extraordinaires pour nous, l'Église. Paul a prié parce que Paul avait à cœur l'édification de l'Église. Paul savait que Dieu l'avait appelé à expliquer à son corps ce qu'est l'Église. Christ a annoncé l'Église, « Je bâtirai mon Église », mais Paul nous l'a expliqué par la grâce de Dieu. Cette prière, elle est merveilleuse. Nous allons maintenant la décortiquer. Elle est merveilleuse. De sa prison, Paul a entendu parler de deux choses de cette Église. Il a entendu parler de leur foi au Seigneur Jésus. Leur foi. Il dit, leur foi et leur amour pour les saints. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour. Paul n'a pas entendu des commérages, n'a pas entendu des ceci, de cela. Il a entendu leur foi au Seigneur Jésus-Christ et leur amour pour tous les saints. Paul était convaincu que les chrétiens d'Éphèse possédaient toutes les bénédictions spirituelles qu'il vient d'écrire. Verset 3 au verset 13, 14, Paul énumère les grandes bénédictions. Paul savait que ces chrétiens les avaient reçues. Et parce que Paul savait qu'ils avaient reçu ces bénédictions, il s'est mis à prier pour eux. Leur foi au Seigneur Jésus leur avait donné de faire l'expérience du miracle du salut. C'est parce qu'ils avaient mis leur foi en Jésus-Christ. C'est parce qu'ils avaient mis leur confiance dans ce que Christ avait fait à la croix qu'ils étaient sauvés et qu'ils avaient reçu toutes les bénédictions. Leur amour pour tous les saints était la démonstration de leur vie nouvelle. C'est parce qu'ils avaient mis leur confiance en Jésus-Christ et c'est parce qu'ils manifestaient leur amour pour tous les saints que Paul a pu fléchir les genoux devant le Père et rendre grâce à Dieu pour ses frères d'Éphèse. Qu'est-ce qui caractérise la vie d'un chrétien? Qu'est-ce qui caractérise la vie d'un chrétien, de celui qui suit Jésus-Christ? Qu'est-ce qui le démarque des non-chrétiens? Qu'est-ce qui le démarque de ceux qui vont vers la perdition? Mes amis, deux choses. Pas 36, deux choses. La foi au Seigneur Jésus-Christ et l'amour pour tous les saints. La foi au Seigneur Jésus-Christ est considéré comme le véritable objet de la foi. Christ, Jésus-Christ, est et restera toujours l'objet et le centre de la foi. Je ne peux pas avoir une foi dans le Dieu vivant si cette foi n'est pas placée en Jésus-Christ. La Bible nous enseigne non pas à placer notre foi dans une confession de foi, ni dans une église, ni dans une religion, encore moins sur un homme. La Bible nous enseigne à placer notre foi dans la personne de Jésus-Christ. Celui qui est assis à la droite de la majesté divine, celui qui dirige toutes choses, y compris lorsqu'un cheveu de ma tête tombe par terre. C'est pas facile à concevoir, mais mes amis, le Dieu qui a créé l'univers est celui qui sait le matin lorsque je me peigne qu'un cheveu tombe. Il le sait. Mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est tout simplement entrer dans la présence de Dieu. Entrer dans la présence de celui qui m'a aimé le premier, qui a préparé un plan pour moi et qui dirige ma vie dès l'instant où je lui fais confiance. Lorsque je fais confiance à Dieu, je dois faire confiance que Dieu a un plan parfait pour moi. Même si je ne le comprends pas tout de suite, mais Dieu a un plan parfait pour moi et il saura l'amener à son accomplissement. Parce qu'il règne et parce qu'il dirige toutes choses. La foi au Seigneur Jésus-Christ comme étant le premier critère majeur de notre appartenance à Dieu, de notre vie nouvelle. Je ne peux pas dire que je suis chrétien si je n'ai pas placé ma foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et mettre sa foi en Jésus-Christ, c'est comme Abraham qui un jour a vu Dieu et s'est réjoui. Abraham a vu le jour du Christ et s'est réjoui. Il m'est impossible de grandir dans ma relation avec Dieu si je n'ai pas la foi en Jésus-Christ. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, au verset 6, nous dit « Sans la foi, il m'est impossible de lui être agréable. » Je ne peux pas grandir sans la foi en Jésus-Christ. Parce que c'est la foi en Jésus-Christ qui me permet de saisir les promesses de Dieu. Si je n'ai pas la foi en Jésus-Christ, comment puis-je savoir que Dieu m'a béni de toutes sortes de bénédictions? Je ne peux pas. Si je n'ai pas mis ma foi en Jésus-Christ, comment puis-je savoir que je suis héritier et co-héritier de Christ? Que je suis enfant de Dieu? Que le Saint-Esprit habite en moi? Que j'ai été prédestiné? Que j'ai été adopté? Si je n'ai pas la foi en Jésus-Christ, je passe à côté des promesses de Dieu. Je passe à côté des bénédictions. Si je n'ai pas la foi en Jésus-Christ, je ne peux pas jouir de toutes les grâces de Dieu. Je passe à côté. Bien sûr, le soleil va briller pour moi. Bien sûr, la pluie va tomber pour moi. Mais je passerai à côté de ce que Dieu a préparé pour moi. Je passerai à côté de l'essentiel. Parce que l'essentiel, mes amis, ce n'est pas que le soleil brille et que la pluie tombe. Même si Dieu, dans sa grâce, fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants et fait le soleil briller sur les justes et les injustes. Mais la vie, ce n'est pas ça. La vie, c'est entrer dans la présence de Dieu et vivre de ses bénédictions, vivre de ses richesses, vivre de ses promesses. Et sans la foi en Jésus-Christ, il m'est impossible de connaître ce que Dieu a préparé pour moi. Sans la foi en Jésus-Christ, il m'est impossible de connaître ma nouvelle identité. Je suis maintenant enfant de Dieu, adopté par grâce, ayant reçu l'esprit d'adoption. Lisons ensemble, mes amis. J'aime ce verset. Galates chapitre 4. Jusqu'à quel verset avant? Galates chapitre 4, verset 4 à 7. Mais, vous savez, lorsque vous lisez la Bible, il faut souligner les mais. Parce que lorsque il y a un mais, ça veut dire qu'il y a quelque chose de positif qui vient. Avant, il y avait un petit quelque chose de négatif, mais le mais introduit quelque chose de positif. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Sans la foi, mes amis, en Jésus-Christ, comment puis-je comprendre, comment puis-je reconnaître que je suis enfant de Dieu? Impossible. L'Esprit Saint, contrairement à ce que pensait le magicien Elimas, acte 8, c'était pas Elimas, c'était un autre. Simon le magicien, il pensait qu'on pouvait acheter Jésus, acheter le Saint-Esprit. Mais quelle erreur, messieurs. Quelle erreur. Penser qu'avec son argent, il pouvait acheter le Saint-Esprit. On n'achète pas le Saint-Esprit. On n'achète pas Dieu. Dieu donne sa grâce. Dieu donne le Saint-Esprit, mes amis. Dieu le donne. Hier soir, je disais à la télévision, d'ailleurs, je vais le dire un peu plus tard, que mettons les riches, les super riches, pour se donner plus d'importance, pour découvrir leur valeur, doivent acheter des choses extrêmement chères pour valoriser un peu leur nature. On n'achète pas Dieu. On n'achète pas le Saint-Esprit, mes amis. On le reçoit par grâce, dans ma foi en Jésus-Christ. Donc, si je n'ai pas ma foi en Jésus-Christ, comment puis-je savoir que je suis enfant de Dieu? Comment puis-je savoir que je suis héritier de la grâce? Je ne peux pas. La foi en Jésus-Christ me permet de connaître ma nouvelle identité, mais aussi me donne d'être vainqueur sur le péché. Il y a une phrase qui m'a touché depuis très longtemps. Vous savez, si je n'avais pas fait des études de théologie pour être pasteur, je pense que je refais des études de droit. J'ai toujours aimé le règne de la justice, toujours. Et il y a un juriste parmi nous, maître Matuandou. Donc, dans les procès, il y a un jour un accusé qui disait au juge, je suis désolé, c'était plus fort que moi. J'ai commis quelque chose, mais c'était plus fort que moi. Et c'est vrai. Le péché est plus fort que l'homme. On ne peut pas lutter tout seul contre le péché. Le péché est plus fort que nous, mes amis, il faut le savoir. Mais, par ma foi en Jésus-Christ, Dieu me donne la possibilité et la force, la grâce de dire non au péché, de résister à la tentation. C'est parce que j'ai ma foi en Jésus-Christ que je peux résister, que je peux dire non au péché. C'est pas à cause de moi, mais à cause de ma foi en Jésus-Christ. Puisque ma foi en Jésus-Christ me donne d'être vainqueur. Parce que Christ a vaincu le péché à la croix. Et toutes les fois où je suis tenté, si je compte sur mes forces, ou bien si je compte sur mes réserves, ah oui, Seigneur, tu vois, j'étais longtemps à l'église, j'ai une bonne réserve. Non, ça ne marche pas, mes amis. C'est ma foi en Jésus-Christ. C'est crier à Jésus-Christ. Seigneur, accorde-moi ta force maintenant. Et c'est vrai, Paul a pu dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Et c'est vrai, c'est ma foi en Jésus-Christ qui me permet de vaincre le péché, de dire non. C'est pas facile. Mais si je mets ma confiance en Jésus-Christ, si je mets ma foi en Jésus-Christ, oui, je peux dire non au péché. D'ailleurs, Pierre nous dit, résistez au diable. Résistez au diable. Mettez votre foi en Christ et il fuira loin de vous. Mais aussi, ma foi en Jésus-Christ me permet de vivre dans l'espérance de la gloire. Ma foi en Jésus-Christ me permet d'avoir cette certitude qu'un jour, je serai avec Dieu pour l'éternité. Je peux tout perdre, mes amis. Dans ce monde, je peux tout perdre. Mais rien ne pourra m'enlever mon espérance que j'ai placée en Jésus-Christ. Et c'est vrai que la foi en Jésus-Christ me donne de vaincre, de surmonter les épreuves, même si elles sont difficiles. Ma foi en Jésus-Christ me permet de vivre cela, d'avoir cette espérance de l'éternité. Donc, premier critère qui caractérise le chrétien, c'est sa foi en Jésus-Christ. Mais le deuxième, mes amis, c'est l'amour pour les saints. L'amour pour les saints. Et dans la Bible, le mot saint veut dire simplement être mis à part. Être mis à part pour appartenir à Dieu. C'est pas une promotion. C'est pas une promotion être saint. Devenir saint, c'est pas une promotion. Mais c'est simplement être mis à part pour Dieu, dans sa grâce. Ce qui est intéressant, c'est que Paul aurait pu dire, dans sa prière, verset 15, « Votre foi au Seigneur Jésus-Christ et votre amour pour tous les saints. » Il aurait pu dire « et votre amour pour tous les frères. » Non, il a dit « votre amour pour tous les saints. » Alors je me suis dit « mais pourquoi ?» Il a remplacé frère par saint. Parce que si le mot frère rappelle notre unité en Christ, nous sommes tous frères et sœurs, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Amen. Hein, nous sommes tous frères et sœurs. Hein, le mot frère rappelle notre unité, la même famille, nous avons le même Dieu, le même Père. Si le mot frère rappelle notre unité, le mot saint rappelle notre nouvelle nature. Notre nouvelle nature, mes amis. Notre nouvelle nature, parce que nous sommes rendus conformes à la sainteté de Dieu grâce au sang du Christ. Être saint, être mis à part pour Dieu, nous avons été rendus conformes à la sainteté de Dieu pour lui appartenir. Et aussi, être saint rappelle notre nouvelle identité. Notre nouveau statut, enfant de Dieu. On peut se dire entre nous, tu es mon frère, tu es ma sœur. Après demain, c'est plus mon frère, c'est plus ma sœur. Hein, hélas, dans l'église, c'est ça. Il suffit qu'il y ait un problème, hop, la personne, on ne la voit plus, c'est plus mon frère. Alors qu'auparavant, c'était mon frère, c'était ma sœur. Oui ou non? Par contre, mes amis, si je sais que cette personne, elle est sainte, c'est-à-dire mise à part pour Dieu, ma perception, merci, change. Si je sais que celui qui est assis à côté de moi est saint, mis à part pour appartenir à Dieu, ayant été conforme à la sainteté de Dieu par le sang de Christ, mon jugement, ma conception change sur cette personne. Que Dieu nous aide, mes amis, à voir celui qui est à côté de nous, pas uniquement mon frère ou ma sœur, mais celui qui est saint, saint devant Dieu, au même titre que moi, mes amis, parce que nous sommes tous sauvés par la même grâce. C'est le même sang qui a coulé pour lui comme pour moi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Paul fait une association, une combinaison entre foi et amour. Dans l'esprit de Paul, la vie chrétienne, c'est une vie où je grandis dans ma foi en Jésus-Christ, et je grandis dans mon amour pour les saints. Je ne peux pas séparer les deux. Je ne peux pas dire d'un côté, oui, je grandis dans le Seigneur Jésus-Christ, et négliger les saints qui sont à côté de moi. Je ne peux pas. Comme non plus, je ne peux pas mettre l'accent sur mon approche, sur ma relation profonde avec les saints à mes côtés, et négliger ma foi en Jésus-Christ. Chez Paul, dans sa prière, l'un ne va pas sans l'autre. C'est une combinaison de deux critères fondamentaux pour marcher dans la vie chrétienne. Il y a ceux qui vont dire que la foi suffit, pas l'amour, que l'amour suffit, pas la foi. Non, avec Paul, ça ne marche pas. L'enseignement de la Bible nous dit que ça va pas ainsi. Donc Paul a formulé des actions de grâce pour ces chrétiens à cause de ce que Christ a fait pour eux. Mais il a aussi prié pour eux. Il a prié pour eux dans deux directions bien précises. Paul a prié pour les chrétiens d'Éphèse dans deux directions bien précises. Deux directions fondamentales, mes amis, fondamentales. La première, c'est qu'il a prié qu'ils connaissent Dieu. Il dit, verset 17, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Paul a prié que les chrétiens d'Éphèse connaissent davantage la personne de Dieu. Connaître Dieu, mes amis. Il n'y a rien de plus fondamental dans la vie chrétienne que de connaître Dieu. Je peux savoir beaucoup de choses. Nous sommes en train d'étudier les événements de la fin. Il faut le faire. C'est bon de le faire. La preuve, on le fait. Mais il n'y a rien de plus fondamental, mes amis, que d'apprendre à connaître qui est Dieu. En tant que chrétien, je ne peux pas grandir si je ne connais pas Dieu. Aucune église ne peut grandir si elle ne connaît pas Dieu. Profondément, personnellement, le Dieu. Vous savez, le chrétien doit avoir sa Bible au milieu et à côté deux livres. Le premier, c'est « Connaître Dieu » de Jim Parker. Retenez, James Parker, « Connaître Dieu ». Et l'autre côté, c'est « La croix de Jésus-Christ » de John Stott. Tout le reste, mes amis, c'est intéressant, mais ça passe après. La Bible, le centre de tout, à côté, mes amis, « Connaître Dieu » de James Parker. L'autre côté, la croix de Jésus-Christ, de John Stott. Deux livres fondamentaux, mes amis. Tout chrétien doit avoir ces livres à la maison. Tout chrétien. Tout le reste sur la prière, la louange, le Saint-Esprit, c'est bien. Mais ces livres-là sont fondamentaux. Parce que, en tant que chrétien, je ne peux pas grandir si je ne connais pas Dieu. Je ne peux pas grandir si je ne connais pas ce que Christ a fait pour moi. Pas possible. Tout le reste, c'est tout ce qu'on veut. C'est fondamental, fondamental, et c'est et des sujets fondamentaux, mes amis, de connaître Dieu, de connaître Dieu. Et c'est vrai que de nos jours, il y a beaucoup de livres, beaucoup de livres, surtout. C'est bien, mais il y a très peu de livres sur l'essentiel, la personne de Dieu, connaître Dieu, mes amis. Et Paul a prié pour que les chrétiens connaissent Dieu. Parce que lorsque je connais qui est Dieu, je sais tout. Parce que connaître Dieu me donne... Lorsque je connais Dieu, mes amis, bon, je prends un exemple. Qui connaît M. Hollande? On le voit à la télé. Lui-même ne nous connaît pas. J'ai une fois la chance de lui serrer la main, mais sans plus. On ne le connaît pas. Il ne nous connaît pas. Si on a la chance de le voir dans la rue, comme c'est un homme très aimable, il va venir vous dire bonjour, mais sans plus. Mes amis, mais est-ce qu'on peut dire qu'avec Dieu, c'est la même chose? Est-ce qu'on peut dire que Dieu me connaît comme ça de loin? Non. Moi, je dois apprendre à connaître qui est Dieu. Et lorsque je sais qui est Dieu, mes amis, ma vie change. ma vie change. Ma vie change. Parce que connaître Dieu me permettra de savoir que cette crainte naturelle qui était en moi disparaît. La crainte de la mort disparaît. La crainte du jugement disparaît. La crainte de ceci ou de cela disparaît, puisque Dieu est devenu mon Père. J'ai une relation authentique et profonde avec lui. Est-ce que maintenant, en juin 2013, est-ce que je peux dire honnêtement, oui, Seigneur, je te connais? Est-ce que je peux dire ça, mes amis? Si je ne peux pas dire en juin 2013, oui, Seigneur, je te connais, mes amis, non pas qu'il soit encore trop tard, nous sommes dans l'ère de la grâce, mais supplions le Seigneur de nous aider à le connaître. Paul a prié pour que les chrétiens connaissent qui est Dieu. Connaissent qui est Dieu. Et c'est vrai que c'est ma relation profonde avec Dieu qui fera toute la différence avec celui qui ne connaît pas Dieu. Parce que celui qui ne connaît pas Dieu vit sans espérance. Il est dans l'ignorance. Mais alors, celui qui connaît Dieu, mes amis, il voit les choses différemment. Ma relation authentique avec Dieu, sur quoi est-elle basée? Est-ce que ma relation avec Dieu est basée sur l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ou est-elle basée sur la peur du jugement? Vous savez, on peut connaître Dieu parce qu'on a peur de lui. Par contre, si je connais Dieu parce qu'il m'aime, c'est différent. Et c'est vrai que connaître Dieu ne s'apprend pas dans les livres. Ça ne s'apprend pas dans les religions, ni dans les expériences mystiques et religieuses, ni de manière culturelle. Connaître Dieu ne s'apprend pas, mes amis. C'est une révélation. Dieu nous accorde la grâce de la révélation. Et Paul priait que Dieu se révèle toujours plus dans la vie de ces chrétiens. Il y a un verset qui est fondamental, mes amis, que j'aimerais bien lire avec vous. C'est 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 et 10. 1 Corinthiens chapitre 2, j'arrête là. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Je ne peux pas connaître Dieu de moi-même. Je ne peux pas connaître Dieu dans les livres, ni même dans les expériences. Je ne peux connaître Dieu que si Dieu se révèle à moi. Par son esprit. Et Paul priait que Dieu se révèle toujours plus dans la vie des chrétiens d'Éphèse. Et c'est là ma prière pour chacun d'entre nous. Hein, que Dieu se révèle toujours plus dans notre cœur. Parce que sans la révélation, je ne peux pas connaître Dieu. Je ne peux pas. Mais par la grâce de Dieu, Christ nous a ouvert la voie de la révélation. Parce que, mes amis, si les églises ne recherchent pas à connaître profondément la personne de Dieu dans la révélation en Jésus-Christ, par l'Esprit, ces églises deviennent des organisations qui ont pour but l'argent. L'argent. Et de nos jours, il y a beaucoup d'églises qui existent que pour l'argent. On est là pour faire de l'argent. Il y a tous les moyens qui sont mis en œuvre pour faire de l'argent. Mais on ne cherche pas à connaître personnellement et profondément Dieu dans une révélation en Jésus-Christ. Paul a prié qu'ils aient un esprit de révélation, mais aussi, Paul a prié, l'autre point de la prière, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Paul a prié en deux mots pour que les chrétiens d'Éphèse soient convaincus de leur vocation. Leur vocation. D'un côté, Paul a prié que Dieu se révèle toujours plus dans leur cœur, mais de l'autre côté, Paul a prié qu'ils connaissent davantage leur vocation. La connaissance de son appel, notre vocation. Savoir qui nous sommes. Lorsque le chrétien sait qui il est, il a tout compris, mes amis. Il a tout compris. Mais la question, mais comment savoir qui je suis? Il faut que Dieu se révèle. Dieu se révèle sur sa personne, mais aussi Dieu se révèle sur qui nous sommes. Sur qui nous sommes. Il est important et urgent que nous découvrions qui nous sommes. Car si je découvre qui je suis, j'entre dans la troisième dimension. J'entre dans une vie à trois dimensions, mes amis. La première, je me vois différemment. Je ne suis plus le même. J'ai conscience que je suis un enfant de Dieu, mis à part pour la gloire de Dieu. Je cherche à plaire au Seigneur parce que j'ai découvert qui je suis. Je veux plaire à Dieu et je m'efforce avec sa grâce à marcher dans la lumière comme Dieu est lumière. Première dimension. Je sais qui je suis. Deuxièmement, je vois la vie chrétienne différemment. Je suis concentré sur les affaires de Dieu, non plus sur les miennes. Ce qui m'importe dans ma vie, c'est chercher la gloire de Dieu, m'occuper des affaires de mon Père. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, oui Seigneur, je veux m'occuper des affaires de mon Père? Le chrétien qui sait qui il est, il sait qu'il doit s'occuper des affaires de son Père. J'ai conscience que j'ai une mission à remplir. J'ai conscience que ma vocation, c'est de plaire à Dieu et de rechercher la gloire de sa grâce dans l'avancement de son règne. Troisièmement, je vois l'Église différemment. Je vois l'Église différemment. Je réalise que je ne suis pas meilleur que les autres. Pas meilleur que les autres. Que j'ai autant besoin de la grâce de Dieu que les autres pour avancer dans la foi. Je considère les autres comme des frères bien-aimés, sauvés par la même grâce. Des saints, mis à part pour Dieu. Comme moi. Comme moi. Que Dieu m'a sauvé pour le servir avec les dons qu'il m'a donnés. Que servir Dieu est un combat où l'ennemi fait tout pour détruire ce que Dieu a fait, mais que rien ne pourra arrêter l'œuvre de Dieu. La prison des hommes ne peuvent arrêter l'œuvre de Dieu. Le diable ne peut arrêter l'œuvre de Dieu, parce que l'œuvre de Dieu vient du trône dans le ciel, vient du trône de la grâce. Mais pour comprendre notre appel, il faut que Dieu agisse dans notre cœur. J'ai besoin, en juin 2013, que Dieu fasse son œuvre dans mon cœur par son esprit. La révélation. J'ai besoin, maintenant. Et c'est pourquoi Paul priait dans ce sens. Que Dieu leur accorde un esprit de sagesse et de révélation. Pour conclure, je vous conclure, mes amis. Ma conclusion, elle est très simple. Que le Seigneur exauce la prière de Paul pour chacun d'entre nous. Tout à l'heure, on a prié. Seul Dieu sait, et vous, ce que vous avez prié pour votre voisin. Mais ma prière, mes amis, c'est que Dieu exauce la prière de Paul pour chacun d'entre nous. Afin que nous puissions grandir, toujours plus fort pour le Seigneur, et que nous sachions qui nous sommes. Alors que Dieu nous accorde la grâce de sa révélation en Jésus-Christ, par son Esprit, pour sa gloire. Amen.